Jean-Pierre Clément est ce que l'on appelle un internationaliste. Né dans une famille de racines agricoles dans un petit village du canton de Vaud, il a rapidement été attiré par l'ailleurs. Son ailleurs, tout d'abord, c'est Zurich, où il commence à militer durant ses études. Il faut dire que les luttes d'indépendance dans les années 60-70 font rage en Afrique. Il les soutient, il y participe depuis la Suisse. Il est farouchement anticolonialiste et radical. Il est dans toutes les combines, mais toujours un peu en marge. Comme si pour lui, le vrai engagement se faisait à quelques encablures des centres qui brûlent. Quelques décennies plus tard, il crie toujours ce slogan « Hoor die internationale Solidarität ».
Jusqu'en 75, au fond, on pensait que le monde allait dans la bonne direction, les peuples se libéraient, l'impérialisme reculait au Vietnam, enfin, etc., etc. Donc, on était plutôt optimiste, quoi. C'est au fond, vers les années 80, qu'on a découvert qu'on avait été couillonnés.
Elles ont façonné notre paysage militant roman. Ils ont été activistes, des petites mains, des acteurs politiques régionaux. Tous se sont battus pour un monde plus solidaire, inclusif, anticapitaliste, parfois il y a plusieurs décennies. Et elles font partie des militantes d'une autre génération, notre vieille garde. C'est celles-là qui ont ouvert une brèche dans des combats encore fondamentaux aujourd'hui. Quel est leur parcours militant? Quelles ont été leurs méthodes de lutte? Quel est leur regard sur les enjeux d'aujourd'hui? La vieille garde raconte.
Alors, je suis né à la fin des années 40 dans un petit village du pied du Jura, typiquement agricole, qui comportait quelques commerçants, artisans et quelques ouvriers, mais à majorité agricole, donc caractérisé politiquement par une vie de clan et une stricte hiérarchie économique. Ma famille était sur une exploitation agricole, je dirais de dimension moyenne. Au fond, elle comportait pas mal de personnes dans la ferme, entre la famille, au sens étroit du terme, et les ouvriers et les apprentis. On vivait un peu en tribu, donc à la table, on était une douzaine de personnes. Au fond, maintenant, ce que je peux dire, c'est que ma famille était très en faveur du progrès technique, qu'elle lisait beaucoup, ce qui était pas si généralisé que ça. Ensuite, de par les mariages de mes grandes tantes qui avaient épousé des gens en ville, et même une tante qui avait épousé un citoyen derrière le rideau de fer et qui vivait derrière le rideau de fer, au fond, on était en contact pas seulement avec le village, qui était un peu renfermé sur lui-même quand même à cette époque, mais avec vraiment un monde plus large, et par exemple aussi avec des gens qui étaient en Algérie.
Déjà durant son enfance, Jean-Pierre Clément parle politique autour de la table.
La famille était radicale, donc du parti radical, parce que c'était un peu à l'époque considéré comme le parti du progrès. Mon grand-oncle et mon grand-père, toujours quand ils avaient fini le travail, lisaient les journaux, écoutaient la radio et faisaient des commentaires. Donc ils étaient aussi intéressés par la situation internationale. Et par exemple, je peux citer une anecdote, vers les années 56-57, ils se sont exprimés, alors qu'ils étaient anticommunistes et antisoviétiques, hein, ça c'était clair, vu les informations qu'ils avaient, mais ils s'étaient exprimés très positivement sur le président Mao et sa politique vis-à-vis des paysans chinois, alors qu'on était au grand bond en avant avec sa famine dans les campagnes. Juste pour dire aussi comment l'information est reçue.
Dans sa ferme du pied du Jura, entouré de livres, Jean-Pierre Clément commence très tôt à s'ouvrir aux problématiques internationales.
Oui, je veux dire, pour nous, au fond, comme on avait de la parenté hors village, hors agriculture et tout, le débat n'était pas purement agricole. Et ça, c'est peut-être une particularité. Et en plus, comme dans la famille, on lisait beaucoup, on s'intéressait au monde. Et au fond, je veux dire aussi au tiers-monde, ce qu'on appelait le tiers-monde.
Le tiers-monde, à l'époque, ce sont les pays qui ne sont ni alignés sur le bloc des États-Unis, ni sur le bloc de l'URSS. Dans ce tiers-monde des années 50, les pays d'Afrique se battent pour leur indépendance. Parmi eux, l'Algérie, dont la guerre anticoloniale face aux Français, à proprement parler, s'étend entre 1956 et 1962. C'est la grande actualité qui fait rage pendant l'enfance de Jean-Pierre Clément. Et forcément, ça le marque.
On avait de la parenté qui était gérant de domaine en Algérie, donc on avait des informations sur l'Algérie. Et aussi sur ce que les Français appelaient les événements, je pense dans ma famille, tout le monde était bien au clair qu'il y avait une guerre.
This is Algeria, a nation of 10 million people, where after 7 years of bloodshed and strife, man's eternal desire to be free has been achieved.
Ensuite, dans le cadre des activités agricoles, nous avions des alpages sur France et nous étions en relation avec des Français qui nous fournissaient des engrais ou des produits comme ça pour l'alpage, et dont un des fils, qui a été un appelé, a été tué pendant la bataille d'Alger. Et si vous voulez, cette famille française, moi j'ai vécu ça parce qu'ils venaient chez nous cueillir les cerises et tout, et ils parlaient de la mort de leur fils, parce qu'ils étaient une grande famille, hein, mais comme d'une mort inutile. C'est-à-dire pour eux, leur point de vue, c'était que leur fils avait été tué pour défendre des riches colons qui opprimaient des Algériens. Et ça, c'était aussi par rapport à ce qu'on entendait à notre radio, à la radio française, une approche complètement différente.
Et puis, adolescent, jeune adulte, Jean-Pierre apprend l'existence de réseaux, c'est-à-dire des sortes d'organisations responsables d'alimenter les canaux d'information. Ressuscité après la Deuxième Guerre mondiale, toujours dans l'ombre, elles mettent alors leurs connaissances au profit du camp algérien, c'est-à-dire ces Français qui se positionnent pour l'indépendance du pays d'Afrique du Nord.
Il y a toujours eu une contrebande entre la France et la Suisse. Donc, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, les réseaux se sont mis au service de leurs parents français qui étaient dans la résistance et aussi les Juifs et tout, mais en même temps, ils trafiquaient. Donc ces gens-là ne sont jamais trop annoncés. C'est récent qu'on a découvert qui était, qu'on avait des noms, mais beaucoup de gens n'ont jamais parlé de ça. Et quand il y a eu la guerre d'Algérie, pour eux, c'est en partie, c'était la même chose. Ils se sont dit, mais c'est injuste. Et ils se sont mis au service pour, par exemple, transporter le Moudjahid, donc le journal officiel de l'époque, vers la France et tout, etc., etc. Donc, vous aviez des gens, et puis on donne un petit coup de main, et puis à la fin, on soutient complètement le mouvement. Et puis surtout, on est les porteurs de valises. On est, si vous voulez, tous ces gens-là, ça leur serait jamais venu à l'idée de dire aux Algériens comment ils devaient faire ou ce qu'ils devaient faire. Et moi, ce qui m'a frappé, après j'ai parlé avec ces anciens qui me racontaient leur jeunesse, c'est que pour eux, c'était clair que la guerre d'Algérie, c'était une guerre de libération. Ça n'était pas une révolution. Si vous voulez, la guerre d'Algérie, elle était quand même très présente, en tout cas au canton de Vaud à Genève, je pense, peut-être pas plus loin, mais à Pinochâtel, je pense. C'était très présent. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais enfin, on savait bien que le fils du facteur du village d'à côté avait failli se faire arrêter en transportant le Moudjahid à la frontière. Enfin, vous voyez, je veux dire, ou qu'il y en avait un à la vallée de Joub, que c'est lui qui faisait passer les Algériens, enfin... Ça n'a jamais été étalé publiquement. Tous ces gens-là sont morts sans raconter leur histoire. Et c'était une ambiance.
Porteur de valises, cette manière de lutter inspire déjà Jean-Pierre Clément. Transmettre des informations importantes, des documents, de l'argent, et s'il le faut parfois, éviter de regarder le contenu de la mallette. En attendant de pouvoir se mêler à la lutte, Jean-Pierre grandit, et de son petit village, il rejoint Lausanne pour poursuivre ses études dans une ambiance toute particulière.
Dès l'instant où j'ai quitté mon village, parce que j'étais pas destiné à reprendre l'exploitation, ma famille m'a proposé de me payer la possibilité d'aller faire des études. J'ai choisi l'agronomie pour différentes raisons, mais au fond, je suis allé à Lausanne dans une école privée. Et là, les professeurs étaient assez atypiques. Donc le professeur de maths était un activiste de l'OAS.
L'OAS, Organisation de l'armée secrète. Pour faire simple, des Français qui sont en faveur de l'Algérie française.
Et qui ont fait des attentats, y compris en Suisse, mais qui ont tué des gens, qui ont essayé d'assassiner De Gaulle et tout, donc c'était des violents. Et ce prof de maths, il avait été dans ces réseaux-là. Et donc, il ne pouvait pas sortir de Suisse, quasiment. Vous aviez un Maurassien, un professeur de littérature, donc qui admirait tous ces grands écrivains qui ont été pro-nazis et tout, pour le style. Vous aviez des professeurs qui venaient d'Allemagne, surtout des Allemandes, qui, elles, étaient dans ces mouvements qui surgissaient à cette époque en Allemagne sur « qu'on fait nos pères et nos mères ». Et puis, vous aviez une figure de 2 mètres de haut à grande gueule qui était le professeur d'histoire géographique, qui était André Benz, qui était un marxiste-léniniste convaincu et qui était un des acteurs du mouvement marxiste-léniniste dans la région lausannoise. Et donc, ces gens-là s'insultaient dans les corridors, devant les élèves. On revivait les événements d'Algérie, la suite des événements d'Algérie, live. Et puis, avec des élèves, fils de riches et de bourgeois du monde entier. Il y avait deux Afghanes, d'ailleurs, filles de général. Et puis, un petit groupe de campagnards. Donc, c'était un mélange assez contrasté entre des fils de riches qui arrivaient en Porsche pour suivre les cours et qui étaient blindés de pognon, des profs un peu de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec de toutes sortes, et puis des élèves suisses, fort divers, mais quand même très campagnards.
Des avis divergents qui permettent à Jean-Pierre de se positionner, de déceler les idées qui lui parlent, celles qu'il rejette. Il se met à jouer aux échecs. Il côtoie un oncle, ancien paysan devenu employé des CFF et fervent socialiste. Cette effervescence lausannoise, ainsi que les questions rurales et agricoles, le forgent.
Les campagnes étaient en train d'évoluer très fort. Je pense qu'à l'époque, aussi paru le livre de Henri Mandras sur la fin des paysans, qui expliquait bien ce passage d'une agriculture, d'une société culturelle agraire millénaire, plurimillénaire, à une agriculture technicisée et puis de plus en plus intégrée au marché. Et c'est vrai que j'ai vu changer mon village. Jusque dans les années, je vais dire, je simplifie, 65, c'était un village où les gens, tout le monde se connaissait, tout le monde savait son histoire sur 5 générations et tout. Et tout d'un coup, il y a les rurbains qui ont commencé à arriver. Et il y a aussi toutes les mœurs, mai 68, enfin tout ça. Je veux dire, de 65 à 70, il y a eu une révolution culturelle dans les campagnes. En plus d'une révolution technique qui avait commencé vers 55. Donc mon microcosme villageois changeait, et puis j'étais dans une école où c'était l'ouverture totale au monde. Et moi, je pendulais la hantre, et c'est pour ça que je dis, par exemple, j'allais, il y avait un bistrot qui était célèbre dans la gauche qui s'appelait le Barbare, et moi, j'ai jamais mis les pieds. Je savais même pas qu'il existait, parce que moi, mon monde, c'était entre la gare et la place Saint-François.
À cette époque, son monde politique se résume à des plaines de maïs et à la rue escarpée du petit chêne lausannois. Pourtant, Jean-Pierre Clément lit le monde diplomatique et se dit déjà internationaliste. Mais avant de parcourir le monde, le jeune Vaudois se frotte d'abord à la Suisse allemande, à l'EPFZ.
Quand je suis arrivé à Zurich, j'ai découvert qu'il y avait des militants de Suisse romande, de l'organisation communiste suisse marxiste-léniniste, donc de toute cette équipe, qui étaient venus pour faire leurs études, mais en même temps aussi venus pour développer l'organisation communiste de Suisse, en Suisse allemande, en particulier dans la Zurich et les environs. Je me suis trouvé mêlé à eux, et c'était un autre monde. Au fond, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait plusieurs Suisses. Parce qu'en Suisse romande, voilà, ben, j'avais un peu vu. Mais au fond, je m'étais très peu mêlé de tous ces groupuscules qui étaient en train de se créer. Et là, j'arrivais à Zurich, il y avait une effervescence très grande, avec des influences de l'Autriche et de l'Allemagne très fortes, et de l'Italie aussi. Et j'ai débarqué dans la grande ville, presque complètement anonyme, avec des gens qui venaient de partout aussi, bon, toute la Suisse, mais aussi quand même des étrangers. Donc Zurich était une ville réactionnaire, avec une police très brutale. Et par exemple, il y avait une loi sur les mœurs, vous ne pouviez pas inviter avec une jeune fille. S'il n'y avait pas deux chambres. Il y avait la police des mœurs qui venait contrôler. Et par exemple, le président des Versus qui était venu avec sa copine, ils ont dû aller habiter à la frontière zurichoise dans le canton d'Argovie, une ville qui s'est d'ailleurs développée à cause de ça. Tous les concubins allaient s'installer là-bas. Ça m'en pour comprendre. Et en même temps, Zurich, je veux dire, c'est un chaudron.
Jean-Pierre intègre ce que l'on appelle alors des groupes de base. Chaque faculté avait alors son petit noyau d'activistes avec des objectifs propres. Modernisation des plans d'études, solidarité internationale, réflexion sur les taxes d'études, etc. Lui, c'est celle de l'agronomie dont il est le plus proche. Mais en face, les réactionnaires sont en marche. Christophe Blocher fait déjà partie du paysage politique. C'est le temps aussi des initiatives Schwarzenbach, les premières à s'attaquer frontalement à l'immigration en Suisse. Les services secrets constituent leur fameuse fiche. Une raison de plus pour rester dans la clandestinité.
Donc tout ça, ça fait que dans ce bouillon-là, avec ces groupes de base et tout, ben moi je participais. On rédigeait des tracts, on rédigeait des petits bouquins, on faisait des meetings, on essayait de se fédérer et tout. Et ça a débouché sur les semaines antifascistes et anticapitalistes. C'était en été, 71 je pense. Et là, donc, il faut bien comprendre, l'université était bloquée. Donc, le recteur a voulu interdire, les étudiants ont occupé le Poly et l'Uni. Et pendant une semaine, il y avait des grands portraits, Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao, donc sur les universités. Enfin, je veux dire, c'était un peu le mai 68, mais très politisé. Je ne sais pas si c'était autoritaire, je ne suis pas sûr que c'était autoritaire comme en France. Vraiment très politisé, très sérieux à la Suisse allemande, avec des conférences, des documents et tout. Et au fond, moi là, pour différentes raisons, avec un collègue, je suis venu le responsable de l'imprimerie des étudiants qui imprimait tout. Donc c'était moi qui transportais les mégaphones, les tracts et tout. D'ailleurs, j'ai croisé quelqu'un de mon village qui essayait de traverser la ville en voiture. Et moi, j'étais là avec des cornets de tracts, des mégaphones et tout, enfin... Voilà, c'est pour dire un peu, tout d'un coup, j'ai redécouvert qu'il y avait mon village qui existait, parce que moi, j'étais en Suisse allemande, je rentrais une fois par mois de ma famille. Donc moi, je me suis immergé en Suisse allemande pendant 7 ans. Pour ceux qui étaient du groupe d'agronomie, on se battait, au fond, pour une agriculture moins capitaliste, je pense. Il faut pas oublier qu'il y avait Rachel Carson qui avait publié son Printemps silencieux, donc sur les méfaits des pesticides. Avec des gens, on avait fait une pétition pour qu'il y ait des cours d'agriculture biologique au Poly. Enfin, ça nous a fait pas mal de problèmes, hein, parce que la répression était quand même existante. Enfin, des choses comme ça. Donc, et puis la question paysanne m'intéressait en Suisse. Les marxistes-léninistes, après j'ai découvert, eux, ça les intéressait pas beaucoup. C'est pour ça que dans tous leurs papiers et leurs fiches, ils m'appelaient le paysan. Ce qui est très rigolo, parce que j'étais pas paysan. Enfin bon. Mais ça, ça a duré de 69 à 71. Et pour l'Organisation des communistes de Suisse, c'était une occasion sensationnelle de recruter. Je veux dire, dans les milieux universitaires et tout. Là, ils ont un pipe aussi dans la jeunesse zurichoise. Les apprentis, tout ça.
Mais le paysan Jean-Pierre Clément se détache petit à petit des luttes agricoles pures.
Comme il n'y avait plus rien qui s'occupait de l'agriculture, j'allais pas faire un mouvement à moi tout seul. Donc il fallait choisir. Et je connaissais quelqu'un, une vieille amie, qui, elle, avait décidé d'aller dans un mouvement qui s'appelait Medic Angola à l'époque, qu'on a transformé en Kampfundes Afrika, qui s'occupait de soutenir d'abord les luttes dans les colonies portugaises, mais aussi la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Donc on va dire Afrique australe, ça s'appelait Afrique australe.
Voici Rutilante, la musique de la force publique. Peau de léopard, tambour bleu et jaune, gants blancs, shako brun.
Et au fond, je suis allé m'annoncer là-bas, on a un peu discuté, ils se demandaient qu'est-ce que c'était ce Welsh et tout, parce que j'étais le Welsh de service.
Jean-Pierre se rappelle, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de personnes du Parti communiste suisse, de plus en plus de maoïstes, un maoïsme ramené par des chaudefonniers qui étaient partis en Chine pour traduire des documents du grand timonier. Lui n'intégrera jamais le parti. Il préfère militer dans les organisations de masse.
Kampfundes Afrika était une petite organisation, au fond, en partie issue de Terre des Hommes, Zurich. Quand je suis arrivé, il y avait plusieurs fractions. Il y avait les intellectuels, je pense d'origine juive d'ailleurs, mais je dirais encore pro-soviétiques, et qui avaient été à des congrès et tout, et qui avaient rencontré des gens de l'Angola, du MPLA, donc qui était la fraction des Métis en Angola, qui menait à la lutte armée, qui était très lié avec le bloc soviétique. Il y avait ce que j'appellerais des africanistes, des gens qui s'intéressaient à l'Afrique, qui pensaient une fois aller même travailler en Afrique et qui, au fond, voulaient contribuer avant d'y aller. Et puis, il y avait une troisième fraction qui, au début, était assez faible, mais très primante, majoritaire. C'était les marxistes-léninistes, c'est-à-dire Ordre International Solidarité, c'est-à-dire lutter contre l'impérialisme. Leur lutte, c'est notre lutte. C'est des gens qui étaient quand même dans la mouvance, je dirais, du mouvement qui était à cette époque-là dominé par le Parti communiste de Suisse marxiste-léniniste.
Jean-Pierre Clément, c'est dans cette troisième faction qu'il se reconnaît le plus. Pour les idées, mais aussi pour l'atmosphère de lutte qui règne entre ses camarades.
Alors, comment dire ? Les Suisses allemands sont assez rigoristes, mais pas tous. Alors, il y avait les intellectuels, là, tout machin, qui faisaient des théories. Il y avait les africanistes qui voulaient faire des choses, mais il y avait des buveurs de bière, on allait boire un verre après. Puis dans les marxistes-léninistes, enfin, les compagnons de route, je dirais, hein, parce que il y en avait très peu qui avaient adhéré au parti, c'était les compagnons de route surtout, on était pas mal à volontiers aller boire une bière et faire la fête. D'ailleurs, c'est un problème pour le parti parce qu'ils ont dû plusieurs fois. Et, parce que moi, j'invitais des gens en Suisse romande dans les alpages, puis on faisait des fêtes à 50, 100, enfin, c'était bon. Et ça gênait le parti. Parce que d'abord, les gens se rencontraient tous. Donc, pour la clandestinité et le cloisonnement, c'était pas bon. Puis, deuxièmement, quand même, ces Neuchâtelois, là, qui étaient revenus de Chine et tout, ils se prenaient pour des gardes rouges puritains. Il n'y avait que la lutte, il y avait que le machin, puis même la gaudriole, il fallait pas. Le gars qui commençait à draguer partout, il faisait pas des vieux os. Donc, il y avait un puritanisme, pro-chinois un peu effrayant. En tout cas, ce n'était pas des anti-autoritaires. Hein.
Mais à part le côté festif, à Kempfendes Africa, ça s'active. N'étant pas dans le noyau du parti, Jean-Pierre Clément préfère le travail sur le terrain. Prendre contact avec les organisations internationales, envoyer des produits de première nécessité, transférer des fonds, écrire un journal pour transmettre l'information en Suisse aussi.
C'est vrai que quand vous êtes compagnon de route, au fond, vous n'allez pas vous mêler de leurs discours théoriques et tout. Vous vous dites, cette organisation, elle est super bien organisée parce que c'est des gens qui bossent, qui sont organisés, qui sont stratégiques, qui rêvent pas. Hein. Je veux dire, la prise de contact avec toutes ces mobilisations, c'était vraiment systématique. On allait voir les délégués dans toute l'Europe. On écrivait des lettres. Enfin, je veux dire, c'était très, très structuré. Ça, c'était bien. Moi, ça me plaisait. Et puis, on avait un journal où il fallait écrire, donc il fallait trouver des renseignements, écrire des informations, parce qu'on le vendait dans les coop et les Migros, il fallait quand même qu'il y ait un peu un contenu qui intéresse les gens. Donc il y avait un côté un peu journalistique. Et il y avait la partie où, avec les dons, on récoltait des médicaments, il fallait des vêtements, donc il fallait trier, mettre en sac, envoyer à Dar es Salaam ou comme ça, enfin, c'était une petite entreprise. Avec des leaders, des employés, des cadres intermédiaires. Enfin, c'est une petite entreprise, puis très démocratique et très féminisée. Je dirais 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Et d'ailleurs, officiellement, le responsable, lui, c'est un homme, pour différentes raisons, mais en fait, les leaders de Kempfendes Africa, c'était que des femmes. C'était 3 femmes, dont une du parti et 2 proches. Mais je veux dire, donc c'était très féministe. Hein. Là, il fallait pas faire son macho. Hein.
Kempfendes Africa organisait également des projections de films. À l'époque où rien ne passait encore par le cloud, c'était des hommes et des femmes qui se transmettaient presque sous le manteau, les bobines, parfois même entre les pays.
À l'époque, donc les films n'avaient pas le droit de circuler, donc fallait descendre à Milan chez les camarades italiens qui faisaient des énormes meetings. Alors, mais eux, c'était des meetings, ils étaient 10 000, hein, Milan, je veux dire. Fallait voir ces salles et tout, et machin et tout. Donc, fallait descendre en train, prendre les bobines, les cacher dans le train, remonter en Suisse, les passer à Zurich, à la Maison du Peuple, où on projetait tout. Il venait quand même pas mal de gens, hein. C'était un mouvement très populaire. Puis ensuite, fallait descendre soit sur l'Allemagne, soit sur la Hollande, pour les transmettre plus loin. Ouais, c'était aussi des passeurs de valises, hein, mais et puis il fallait aller chercher de la documentation, des tracts, des machins. Donc, c'est une entreprise de soutien à la lutte des peuples.
Et tout le monde participait à ce petit trafic.
Je suis allé avec une camarade, on est allé à Londres, quand il y a eu, dans les années 74, je crois, une grande réunion des organisations de libération avec des délégués de tous les mouvements de libération, des chefs aussi d'ailleurs, et on en a profité pour faire le tour de toutes les organisations qui avaient leurs représentants à Londres. C'est d'ailleurs là qu'on a pour la première fois croisé un pauvre monsieur, un gars très sympathique d'ailleurs, qui venait d'arriver et qui était pour le ZANU, l'Union nationale de libération du Zimbabwe, donc la fraction de monsieur Mugabe. Hein, parce qu'il y avait le ZAPU qui était pro-soviétique. Et ce monsieur était très gentil, et puis vraiment désorienté et tout. Et puis on venait d'avoir vu que des fonctionnaires soviétiques qui, avec l'argent qu'on leur donnait, allaient manifestement dans les clubs danser le soir. Donc, avec ma camarade, on a dit, eh ben, on lui donne aussi du pognon à celui-là. Et quand on est rentré, on a dû expliquer à notre mouvement, qui était quand même une septantaine de personnes, hein. On a dû leur expliquer, ben voilà, on avait décidé de soutenir le ZANU, et puis que maintenant on était en contact, on avait l'adresse et tout, puis qu'on allait continuer et tout. Disons que cet écart à la ligne n'a pas été unanimement apprécié, mais enfin quand même, ils appelaient le ZANU, et puis bon, 15 jours après, les Chinois ont adoubé le ZANU officiellement, donc on était bon.
Cette fois, on peut le dire, Jean-Pierre Clément vit l'internationalisme en vrai, fini le militantisme entre sa campagne vaudoise, la gare de Lausanne et la place Saint-François. Pour le coup, il voyage. Il rencontre des acteurs de la politique internationale et se mêle aux luttes d'indépendance.
On était jeunes, hein. On n'avait pas de famille. On finissait nos études, on commençait de travailler. Il y avait du mouvement, quoi. Et puis, en plus, il se passait quelque chose. Parce que la lutte de libération, elle progressait. Et au fond, nous, on soutenait les mouvements. On n'avait rien à dire sur ce qu'ils faisaient, on rapportait, on aidait leurs délégués quand ils venaient en Suisse pour avoir des contacts avec les autorités officielles ou non officielles, avec des organisations qui étaient en Afrique et tout. On était les go-between, comme on dit. C'était passionnant, c'était intéressant, ça nous occupait une bonne partie de notre vie. Et puis, c'était une équipe très sympa. Scheme for North Africa, des gens un peu tous les milieux et des gens très sympas. Puis moi, j'étais un peu le Welsh, quoi, des fois, voilà. Je leur faisais de la saucisse au chou et du papé, ils étaient tout contents. C'était une ambiance militante, mais je dirais, il y avait un objectif, il y avait une stratégie, il y avait des règles de conduite. Donc, nous, c'était clair, hein. C'était des luttes justes. C'était des luttes contre l'impérialisme, donc ça affaiblissait le capitalisme. Et la solidarité internationale, c'est un dogme du marxisme-léninisme. Donc, pour nous, c'était clair, ces mouvements luttaient d'ailleurs contre une dictature, hein, Salazar au Portugal, ou contre des racistes en Afrique du Sud, hein, l'apartheid et tout ça, ou au Zimbabwe, c'était contre, on peut dire, les Anglais, ou en tout cas leurs héritiers. Donc il n'y avait pas de discussion, c'était des luttes justes. Je veux dire, on n'était pas aveugles, mais on n'était pas là pour discuter le contenu, on était là pour soutenir une lutte juste. Et c'était eux qui décidaient comment ils faisaient. Et nous, on était juste là pour leur servir de base arrière, pour les faire connaître, pour les aider quand ils venaient parmi chez nous, les loger, éventuellement, si vous voulez rencontrer quelqu'un, leur faire rencontrer. Plus la lutte devenait victorieuse, plus, au fond, les autorités suisses n'étaient pas si mécontentes qu'on leur téléphone, disant, dis donc, il y a Mugabe qui est là à Zurich, qui serait assez content de rencontrer quelqu'un du gouvernement, enfin, représentant. Je veux dire, la Suisse, on a toujours été très souple. Hein. Ça a comme été avec l'Algérie. L'Algérie, au début, on n'aimait pas tant ces Algériens qui se mêlent, le bordel. Mais plus il semblait que ça allait, bah, plus on avait des contacts quand même. Et au fond, c'est en 74, ça s'est gâté. On avait mis le verre dans le fruit. Donc, tout d'un coup, on était, depuis 74, hein, de plus en plus, on obligeait Camp for North Africa à adopter cette posture. L'ennemi principal, c'est les Soviétiques. Les Américains, tout ça, c'est des ennemis, mais moins importants, on finira bien par les battre et tout. Là, il y a eu un basculement vers 74. La mouvance marxiste-léniniste dite pro-chinoise, avec sa nouvelle génération, ma génération, qui a sombré dans un suivisme, un dogmatisme, et puis le fait fallait être reconnu par les Chinois comme le seul vrai parti. Donc pour ça, toutes les concessions, c'était aveugle. Et moi, je veux dire, là, j'ai pété un câble, quoi. C'était tellement hors sol. Et puis, c'était contraire à la cause. Enfin, c'était contraire à notre travail. Je veux dire, c'est là où j'ai commencé à me dire, c'était aussi l'époque où j'allais rentrer en Suisse romande. Je pensais, j'avais décidé que je resterais pas à Zurich, que culturellement, quand même, j'étais un roman. Donc, j'essayerais de trouver du travail en Suisse romande, ce que j'ai trouvé en 76. Mais quand même, là, je pense qu'à partir de 74, je commençais à tourner les talons parce que vraiment, je me disais, mais ça déconne, quoi.
Si, au niveau des organisations en Suisse, les difficultés s'enchaînent, au niveau international, la petite équipe de militants dont fait partie Jean-Pierre peut se targuer d'un certain nombre de réussites. Enfin...
Bon, c'est pas nos réussites, hein, c'est les réussites des peuples. Mais si vous voulez, l'Angola s'est libéré, et bon, après il y a eu une guerre civile, la Guinée-Bissau s'est libérée, le Mozambique s'est libéré, le Rhodésie est devenu le Zimbabwe s'est libéré, la Namibie et l'Afrique du Sud se sont libérées. Donc en fait, l'Afrique australe s'est libérée du colonialisme et de l'apartheid. Mais c'est pas nous, mais on est un petit rouage. Ça allait dans le bon sens. Mais ce qu'on n'a pas vu, parce que c'était les dernières luttes de libération, à part les Kurdes, hein, mais ça c'est un autre chapitre. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que parallèlement à ça, il y avait le néocolonialisme qui s'installait et qui était hyper efficace, et le néolibéralisme qui arrivait chez nous, qui était hyper efficace. Et ça, je veux dire, on est tombé des nues. Hein. Je veux dire, on était tellement omnibulés par cette ligne chinoise, ces machins et tout, qu'on, enfin, tous, on n'a pas réfléchi sur ce qui se passait. Puis les organisations de masse aussi, elles commençaient un peu à perdre des gens parce qu'ils comprenaient plus ce que c'était que ces histoires et tout, ça leur paraissait ésotérique et tout. Puis les luttes se finissaient. Je parle là de Café Nos Africains. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, vers les années 75, ça a été le sommet de la vague, qu'après elle est retombée. Alors, il y a eu des soubresauts officiellement, le Parti communiste, je crois qu'il existait jusqu'en 87. Mais, à partir de... En tout cas, en Suisse romande, moi je suis rentré en Suisse romande en 76. Je veux dire, en Suisse romande, là j'ai découvert que le parti n'existait pas quasiment.
Jean-Pierre Clément ne s'arrête pas pour autant de militer. Mais depuis, la cause internationaliste n'a plus autant de vigueur en Suisse et ailleurs.
Moi je pense que ça a été d'abord une belle époque pour ma jeunesse. Et puis, ça m'a beaucoup appris sur la façon de militer, de faire des stratégies, toutes les côtés pratiques du militantisme. Et puis, jusqu'en 75, au fond, on pensait que le monde allait dans la bonne direction, les peuples se libéraient, l'impérialisme reculait au Vietnam, enfin, etc., etc. Donc, on était plutôt optimistes, quoi. C'est au fond, vers les années 80, qu'on a découvert qu'on avait été couillonné.
Par le néolibéralisme.
Et le néocolonialisme. Tout d'un coup, on a découvert que toutes ces indépendances s'étaient récupérées par l'impérialisme qui arrivait à mettre ses gens au pouvoir ou à s'acoquiner avec les gens qu'il fallait et tout. Puis en même temps, on avait chez nous, d'abord, on n'arrivait plus à recruter. Parce que le néolibéralisme, cette vague où chacun pouvait venir patron, entrepreneur, tout ça, on n'arrivait plus à recruter. Disons, la vague, c'était faire de l'écologie ou de l'antinucléarisme et tout, mais tout un peu individuel. Les gens voulaient pas se mettre corps et âme, les organisations. Enfin, on avait tout d'un coup une génération qui pouvait s'enflammer pour aller faire brigadiste en Nicaragua un mois, puis ensuite passer à autre chose, mais plus du tout comme le marxisme-léniniste où tu t'engageais pour la vie et tu étais incorporé, et puis soit tu mourais, soit tu étais exclu, quoi. Au fond, je me disais, voilà, on n'a pas été du mauvais côté de la chose, et puis maintenant, moi je suis arrivé en Suisse romande, il y avait la Ligue encore qui existait un peu, mais qui avait aussi pas mal de problèmes. Il y avait le Parti Socialiste un peu qui se structurait. Là, il y avait Maillard, l'équipe là qui arrivait. Au fond, on quittait la révolution pour venir à la gestion de la situation, quoi. La phase du combat dans les tranchées y était achevée. On arrivait dans, je sais pas, une espèce de phase de transition.
À ce moment-là de l'interview, Jean-Pierre se gratte le cuir chevelu. Il réfléchit, il soupire. Du dépit ?
Non, c'était, si vous voulez, je pense qu'on a pris conscience que les temps avaient changé et que la situation nous était plus si favorable que ça. Et puis pour différentes raisons, parce qu'aussi, on avait 10 ans de plus. Et il fallait fonder peut-être des familles, il fallait faire sa carrière professionnelle, enfin les impératifs de la vie de tous les jours. Et puis, au fond, il fallait choisir un peu dans quoi on allait militer. Moi, j'ai poursuivi, on va dire, dans les contacts avec la Chine. Et puis, j'ai été très actif quand il y a eu la guerre du Kosovo. Enfin, quand il y a eu des soubresauts de peuple et tout, là, j'ai été assez actif, quoi. En essayant d'organiser les gens, de faire des choses. Mais c'était des petites flammes. Le grand combat était fini parce que le capitalisme sait s'adapter beaucoup plus rapidement aux nouvelles situations que le marxiste-léninisme qui, au fond, s'est sclérosé.
Et l'internationalisme en a forcément aussi pâti.
Bon, il y a eu le Nicaragua, hein, qui a fait un peu... Il y a eu le Rojava, hein. Mais moi, ça m'a frappé, là, il vient d'avoir la manif des Kurdes à Lausanne. Des Suisses, il n'y en avait pas beaucoup, hein. à part justement les Rojaviens, mais dont j'estime qu'ils sont un peu dans un rêve, enfin, les gens font la révolution pour nous, enfin, ouais, je sais pas, je suis peut-être trop critique, mais disons, c'est l'internationalisme prolétarien, mais ça me paraît assez romantique, parce que nous, on n'était vraiment pas des romantiques, hein. Donc, je voyais à cette manif, quasiment pas de Suisses, alors que c'était quand même le 100e anniversaire, et puis quand même la dernière grande question de la libération des peuples, c'est la cause kurde. Donc, on voit bien, je sais pas, mais moi aussi, je suis pas organisé, il y a aucune organisation qui m'a séduit. C'est beaucoup des luttes sociales, de genre, comme ça, qui, moi, au fond... Je suis pas contre, mais je vois pas pourquoi je m'engagerais là-dedans en tant que vieil homme blanc.
Les modèles de lutte de la nouvelle génération l'interrogent.
Alors, d'abord, il n'y a pas de culture historique. Et ça me frappe. Ils ont vraiment fait table rase du passé, les luttes d'avant. Bon. Ensuite, ils sont très sectoriels, je trouve. Ils disent bien qu'après, ils groupent tout, mais quand même, chacun a son petit... Deuxièmement, on fait ça 6 mois, puis après, on part en vacances en Thaïlande. Hein? Bon, je caricature, mais on comprend bien. Et puis, comment dire? Moi, j'ai vu avec les jeunes du climat, j'étais avec les grands-parents du climat, qui eux, c'était des anciens, donc structurés et tout. Puis les jeunes du climat, ils se sont battus comme des fous, mais ça a duré une année. Et puis, qu'est-ce qui reste des jeunes du climat? Ben, je sais pas, non, moi, je suis vieux. C'est vous qui êtes jeune. C'est vous qui voyez votre génération, ce qu'elle fait. Moi, je sais pas.
Jean-Pierre Clément a un message pour la jeune génération.
On doit d'abord comprendre la situation, ensuite se fixer des objectifs et une stratégie. Parce que la lutte, elle est contre l'ennemi, qui continue à être le capitalisme et l'impérialisme. Elle est possible que si on est organisé, on a une structure, on a des objectifs. Et puis le problème, c'est la durée.
Il faut également faire attention au sectarisme, car c'est ce qui a réduit à néant le Parti communiste.
On est tombé dans la secte. Hein. Il y avait Dieu, Mao, il y avait ses prophètes reconnus, et il y avait les disciples. Et ça, je caricature bien sûr, mais quand même, ça a tué le mouvement. Parce que les gens ne sont plus qu'occupés de comprendre ce qui venait de Pékin, et ont passé plus de temps à ça qu'à la lutte dans le pays. Et en même temps, ça a fait qu'ils n'ont rien vu de ce qui nous arrivait dessus.
Prendre garde aussi à trouver la bonne distance.
Oui, parce que il faut bien comprendre quand vous militez comme ça, que c'est votre vie... tout d'un coup vous êtes en désaccord peut-être avec la ligne, des choses comme ça, et puis vous êtes exclu, et tout d'un coup c'est votre vie qui s'effondre. C'est comme un moine qui est exclu de l'église, vous voyez ce que je veux dire? Et ça a été constant dans tous les mouvements, quand vous êtes exclu. Et puis il y en a, ils ont fait des burn-out, ils se sont tellement, vous voyez, et puis ils ont tellement essayé de comprendre et tout, et ça a été leur vie. Je veux dire, les gens du noyau, j'en connaissais quand même pas mal, hein, mais il y en a, ils se sont grillés. Parce que justement, ils ont adhéré à 200%, ils n'ont pas gardé leur esprit critique. Et à la fin, il ne restait plus qu'un tas de ruines et un désespoir. Moi, ça a été ma vie. Je veux dire, je ne regrette pas, c'est intéressant. Je me suis fait des amis, aussi dans ces pays. Je continue à penser que quand il y a des luttes des peuples, il faut les soutenir. L'impérialisme grand russe, là, avec l'Ukraine et tout, je pense qu'en effet, c'est une lutte juste. Après, il y a tous les problèmes géostratégiques qu'a posé tout, mais je pense que ça m'a appris à regarder autour de moi, rester ouvert, à me poser des questions, et puis à chercher s'il n'y a pas des jeunes qui se battent.
La preuve d'un certain cynisme, d'un amour pour les formules politiques, ou l'espoir de continuer la lutte, même après sa mort? Jean-Pierre Clément a déjà rédigé son avis mortuaire.
Oui, ça c'est ce que j'ai dit à mes enfants. J'ai dit, en fait, Bolivar, donc le grand leader de l'indépendance de l'Amérique latine, avait dit « j'ai labouré la mer ». Et moi, j'ai dit « oui, j'ai aussi labouré la mer, avec d'autres d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé l'écume de nos sillons ». Vous voyez, quand vous labourez la mer, vous pouvez dire « vous avez brassé, mais ça a servi à rien ». Mais moi, je dis « non, il y a un petit écume qui flotte ». Et quand vous avez brassé la main, il y a l'écume qui reste, qui perdure. Et au fond, c'est ce qui reste. C'est une espérance.
La vieille garde.
Un machin audio.
De François Clément.
Estelle Panatier.
Et toute l'équipe technique et subsistance.